On accueille à présent Alain Madelin. Bonsoir. Ancien ministre de l'économie. Je vous laisse prendre place autour de la table. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une image. Ouais. Un graphique très parlant que j'aimerais vous soumettre. Regardez l'évolution des principales places financières. Le point de bascule, il est net, 2 avril, mercredi dernier, les droits de douane réciproques annoncés par Donald Trump. Et depuis, c'est une chute libre, c'est vertigineux. Quel mot vous mettez, vous, pour qualifier la situation qu'on est en train de vivre ?
Quelque chose de parfaitement conséquent. Avec ce qu'a fait Donald Trump, tous les que je vous dise. On nous a habitués à une économie mondialisée où l'immensité des produits sont made in world et pas made in tel ou tel pays. Tout circule, tout s'échange et brutalement, vous mettez des barrières partout. Qu'est-ce que vous en concluez ? Le libre-échange est un jeu par nature gagnant-gagnant. Le protectionnisme est, par nature, un jeu perdant-perdant. Donc, ça se traduit par une baisse de richesse globale prévisible. Et donc, si des entreprises font moins de bénéfices, leur valeur, ou même des pertes, leur valeur est diminuée de façon mathématique, et les bourses enregistrent.
Les bourses enregistrent marché lundi noir sur les bourses mondiales. Sauf que ce soir, la bourse de New York termine sans direction claire, avec une légère, on reste dans le négatif, mais une légère remontée. Est-ce que pour vous, c'est un orage passager ?
Ah non.
Si Donald Trump ne fait pas marche arrière, on va inévitablement vers une récession pour vous ?
Oui.
Oui.
Pour donc, la c'est raison, pas un orage passager. Pour la raison suivante, c'est qu'une crise en cache une autre. Et vous avez ce que vous voyez, la bourrasque du libre-échange. Et puis derrière, vous avez une autre crise qui avait commencé déjà depuis quelque temps, d'ailleurs pour être franc, qui se manifeste et prend bien évidemment un tour tout à fait dramatique avec ce qu'est en train de faire Trump. Cette autre crise, c'est la pénurie de liquidités mondiales. Il y a de moins en moins de liquidités. C'est pour ça que vous avez tout le monde qui se rue vers les liquidités disponibles. Et là, vous avez les indicateurs, les canaris dans la mine, si l'on peut dire, qui annoncent ce genre de crise, qui sont tous morts, hein, là, en ce moment. Et donc, derrière, vous allez avoir une crise de liquidité. Qu'est-ce qui peut l'arrêter ? Il y a un certain nombre de mesures qui pourraient l'arrêter.
Mais pourquoi vous dites une crise de liquidité à la Madeleine ?
Pardon ?
Sur quoi vous appuyez sur cette crise de liquidité ?
Bêtement,
parce qu'il y a beaucoup d'argent disponible.
C'est plus compliqué que ça. La crise de liquidité, c'est que l'économie mondiale, elle marche sur une monnaie principale, le dollar, mais qui est créée aux deux tiers en dehors des États-Unis par un système bancaire qui lui-même, pour fonctionner, a besoin d'avoir du collatéral. Et c'est ce marché du collatéral, des obligations de bonne qualité, qui est totalement en crise aujourd'hui. Elles ne circulent plus, elles sont thésaurisées par les intermédiaires. Et dans ce cas-là, vous avez notamment, surtout d'abord, dans les pays émergents, vous avez des gens qui ont besoin de renouveler leur crédit, parce que leur crédit, souvent en dollars d'ailleurs, il faut le renouveler, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Et donc, vous avez, comme ça, un phénomène qui commence. Vous avez une entreprise qui tombe, qui pousse un autre domino, qui pousse un autre domino, qui pousse un autre domino.
C'est pour ça que Donald Trump veut un nouvel accord.
Pardon ?
Donald Trump, il veut un nouvel accord, l'accord de Mar-a-Lago, qui soit un peu...
Non, ça c'est autre chose.
Un nouvel accord sur un monétaire.
Alors, on va évoquer la riposte européenne.
C'est
la
un autre chose, pardon.
De faire céder Donald Trump. Mais j'aimerais quand même juste sur les conséquences. Les conséquences, qu'on soit bien précis pour qu'on comprenne les enjeux de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Si Donald Trump ne plie pas sur les droits de douane, on va vers quoi ? On va vers une récession pour tous les pays. Et comment ça se traduirait en termes d'emploi, en termes de pouvoir d'achat ?
Ça se traduit, pour faire simple, au pire, c'est un style 2007-2008. Parce que c'était une crise de liquidité, de la même façon. Vous en avez une qui a un peu avorté, c'était à l'été 2020. Elle était là, et puis il y a eu un reflux. Mais elle n'était pas mondiale à ce moment-là. Donc je ne sais pas, parce que vous savez, vous ne pouvez pas prévoir de ces événements. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que ça y est, c'est parti, il y a une crise de liquidité, vous la voyez dans de nombreux indicateurs, et cette crise, par nature, c'est intéressant à savoir, elle est déflationniste. Parce que quand vous détruisez des liquidités, vous détruisez la richesse, vous détruisez la masse monétaire, et donc c'est une crise déflationniste. Donc nous allons vers des lendemains déflationnistes, est-ce contrairement que, à tout ce que j'entends et tout ce que je lis.
Madame Madeleine, on voit que l'Europe, elle est en train de réfléchir, elle tâtonne, elle n'a pas donné un discours ferme à la réplique. Quelle est, selon vous, la réplique qu'elle doit donner? Est-ce que ça passe par œil pour œil? Est-ce que ça passe par l'interdiction au marché public des entreprises américaines? Est-ce que ça passe aussi par des mesures de rétorsion sur notamment la propriété intellectuelle?
Ah, bonne idée. Il faut rester calme, d'abord. Et œil pour œil, j'y vais. Bon, les Américains, avec leurs droits de douane, Trump pense qu'il fait payer les pays étrangers.
Ouais.
C'est faux. Il fait payer le consommateur américain. Donc un droit de douane aux États-Unis, c'est un droit de douane qui est payé par le consommateur américain. Sachant cela, vous dites, tiens, Trump met des impôts sur les consommateurs américains. Donc, moi aussi, je mets des impôts sur les consommateurs européens. Est-ce que c'est la chose la plus intelligente? Donc, vous voyez que là, il y a une limite à la loi du talion. En revanche, vous pouvez faire ici des exemples, là, vous me prenez mon cognac, je vais prendre tes Harley Davidson, etc. On peut faire ce genre de choses. Mais la chose la plus intelligente, à mes yeux, c'est ce qu'a fait, pour l'instant, l'Europe, en disant, allez, dans le domaine industriel, vous nous accusez que d'inégalité, allez, on repart, base zéro. Ah, c'est intelligent. Alors, ça va pas aller très loin, puisque Trump est persuadé, par exemple, que la TVA est un droit de douane. Alors, s'il veut mettre
oui,
la TVA comme droit de douane, on va pas y arriver. Mais si vous voulez, le fait de le reprendre, j'allais dire, par la raison, comme s'il y avait encore une OMC, vous voulez pas dire, non, voilà quels sont nos droits, voilà en justice, en vérité, ce que nos droits, je trouve que c'est plutôt intelligent. Et ça s'adresse aussi à l'opinion, et puis on va bien voir venir. En tout cas, je suis pour.
C'est la propriété intellectuelle.
Bah, si qui me pose la question.
Ouais, allez-y, répondez sur la propriété intellectuelle.
À la propriété intellectuelle, il a tout à fait raison. On a une arme atomique tactique. L'arme atomique tactique, alors c'est... Est-ce qu'on doit l'employer? On doit sans doute pouvoir l'agiter. L'employer... C'est une escalade nucléaire, faut faire toujours un peu attention. Hein. Mais cette arme nucléaire tactique, c'est celle qui était d'abord dans l'OMC, hein, et puis que la Commission européenne a repris un peu dans les textes européens avec le dispositif anti-coercition. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit que, je prends l'exemple de l'OMC parce que ça a été bien jugé par elle en justice, hein, droit international. Lorsqu'un pays est victime d'une agression, il a le droit de se défendre, en, non pas en taxant avec des droits de douane supplémentaires, mais en disant, moi j'importe des produits, mais je les libère de tout droit de propriété intellectuelle. Là, ça ferait réfléchir du monde. Hein. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans cette menace, mais Yves Trahard a parfaitement raison, c'est une arme dans la panoplie.
Il y a tout un arsenal commercial qui est sur la table en ce moment pour envisager les possibilités, Edwige, de riposte de la part de l'Union européenne, avec la nécessité d'obtenir une réponse commune. À 7h, ce que l'on peut dire, les annonces qui ont été faites aujourd'hui par le commissaire européen au commerce, c'est qu'il va y avoir une première vague de droits de douane en réponse aux attaques sur l'acier et l'aluminium qui va entrer en vigueur le 15 avril. Il y aura une deuxième vague le 15 mai. Là, l'idée, c'est d'imposer des droits de douane sur certains produits à hauteur de 25%.
Avec une certaine liste, oui.
Mais si on fixe cet échange du 15 mai, c'est bien parce qu'on estime qu'il y a encore une ouverture, un chemin possible sur la négociation. Et là, il y a une proposition qui a été faite par l'Union européenne qui propose aux États-Unis une suppression réciproque des droits de douane sur l'automobile et sur tous les biens industriel, est-ce que c'est un deal qui peut être acceptable par Donald Trump?
Mais j'ai pas le sentiment que Donald Trump ait accepté ce deal tout à l'heure lorsqu'on l'a.
Il parle d'accord équitable. Tout à l'heure, il a pris la parole, il dit qu'il y a des accords équitables possibles avec les pays.
Mais c'est là où la stratégie, je trouve, de l'Union européenne est plutôt intelligente, c'est-à-dire, c'est de taper fort verbalement, mais de laisser du temps. C'est-à-dire de laisser du temps à la négociation avec un calendrier qui est quand même sur la deuxième partie, qui est assez lointain.
D'abord que les Américains et les Chinois, c'est trip d'abord.
Ben c'est le cas parce que c'est
d'abord, monsieur, tripez-vous, on verra après nous.
Demain midi, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Si jamais on n'a pas réussi à trouver un accord avec la Chine, à ce moment-là, ça sera 104%. Donc là, on est vraiment dans le bras de fer, ce qu'on disait.
Servez ces messieurs les premiers.
Oui, un peu. Et que l'Union européenne, elle essaye de, quand même d'être plus mesurée et que c'est peut-être, je trouve, plutôt intelligent comme stratégie.
Mais c'est très intelligent.
Voilà. Donc c'est. Et mais pour l'instant, on n'a aucune réponse sur l'industrie automobile parce qu'il est. Vous avez entendu, on fait 280 milliards de déficit l'Union européenne, déficit commercial. Enfin, les États-Unis font avec nous. Eh bien, il a dit, le président américain, il faut qu'il nous achète de l'énergie à hauteur de 280 milliards pour que dans une semaine, on ait un déficit qui soit réduit à zéro.
Non mais c'est, voilà. C'est symptomatique ça, parce qu'il dit dans le même temps, il faut que les Européens achètent des voitures américaines. Et là, vous voyez qu'il y a un vrai problème. À un moment donné, on était content d'acheter des voitures américaines. Maintenant, quelqu'un qui achète une voiture allemande, il n'a pas du tout envie d'acheter une Chevrolet. C'est-à-dire que vous avez eu une perte de compétitivité. C'est pas de la peine d'accuser. Énorme. Ah, mais ils ne volent. Voilà, ils sont en train de nous voler. Non, vous avez perdu de la compétitivité dans certains secteurs. Ouais. C'est votre problème.
Ouais. Je rebondis sur ce qu'Edwige était en train de dire sur la stratégie européenne, le fait de temporiser, de laisser la place à la négociation. A contrario, la stratégie chinoise, c'est la pire, de répondre. Par coup, œil pour œil, dent pour dent, parce que c'est exactement ce qui se fait. 34% de droits de douane, 34% réciproque. Et là, ce soir, comme vous le disiez, Edwige, Donald Trump, qui annonce 105% au final des produits.
Au total, ça fera 50%, donc au total, ça fera 104%.
À 104%.
Je ne sais pas, mais nous, on est les petits poussets. On va d'abord laisser les Goliaths régler leurs problèmes entre eux.
Mais avec quelles conséquences, d'ailleurs, pour nous,
le danger est aussi, d'ailleurs, un peu pour les Américains, qu'ils réfléchissent. Ils disent non au libre-échange. Et le monde a envie de libre-échange, a besoin de libre-échange. Et donc, vous allez avoir des tas de traités de libre-échange qui vont se faire dans le monde si les Américains persistent. On va peut-être même, réanimer le Mercosur. Et puis, vous allez avoir la Chine.
Il faudrait
Chine.
Créer une espèce de grande zone de libre-échange avec le Canada, avec le Royaume-Uni, pour concurrencer
la Chine va être,
les États-Unis.
La Chine va être active. Oui.
La Chine va être active.
Elle a déjà les routes de la soie, elle a déjà des tas de gens qui, en Asie, regardent vers elle, etc. Et donc, l'idée qu'on fait des droits de douane in fine pour constituer la force de frappe qui nous permettra de vaincre la Chine demain, ouais, mais en attendant, Donald Trump, tu es en train de perdre sur le plan commercial parce que cette action-là, tu perds des alliés, tu perds des marchés, et maintenant tu vas créer un libre-échange qui va totalement t'échapper.
Mais cette escalade avec la Chine, est-ce qu'elle peut avoir des répercussions chez nous, cette guerre commerciale sino-américaine? Parce que les produits chinois, il va falloir les écouler.
Alors c'est ça, vous savez,
chez nous et apporter encore davantage de concurrence.
On a théorisé le piège de Thucydide. C'était la guerre entre Sparte et Athènes. C'est la puissance émergente qui prend le dessus sur la puissance dominante. Si, effectivement, les États-Unis s'effondrent avec les mesures de Donald Trump, et personnellement, je pense qu'il prend un risque énorme de voir s'affaiblir son pays, qui est-ce qui peut en profiter le plus hors les États-Unis? C'est évidemment la Chine. Et la Chine, qu'est-ce qu'elle va trouver comme partenaire principaux pour comment vendre ses produits? C'est évidemment l'Europe. Principalement l'Afrique, j'en parle même pas puisque c'est déjà le cas. Donc elle va
nos entreprises paieront cette guerre commerciale
elle va se prendre effectivement, c'est elle qui va remporter la mise. Alors théoriquement, j'entends.
J'ajoute un élément.
Mais l'Europe peut aussi se réveiller. C'est-à-dire que l'Europe peut saisir cette chance qui lui est donnée sur un plateau par Donald Trump en justement s'armant. Se réarmer, puisqu'elle doit se réarmer dans tous les domaines, et bien se réarmer pour faire bonne figure.
J'ajoute cependant que dans la crise de liquidité que je vous annonçais tout à l'heure, la Chine est dans une grave crise financière et la Chine est dans une grave déflation. Il y a plus de déflation qu'il n'y en a eu au Japon, dans les pires moments.
Elle tient la dette américaine, la Chine.
Oui. Non.
Est-ce qu'elle peut en jouer? Est-ce qu'elle peut jouer de ce levier? Vous êtes endetté auprès de nous, obéissez-nous.
Non. Non, parce que la dette américaine, pour des mille raisons. Les deux tiers de la monnaie créée dans le monde sont créés en dehors des États-Unis. Et le monde est fait, croit-on, de dollars, mais en fait, il est fait d'une invention de dollars créés par le marché international, c'est-à-dire je prends une créance, c'est intéressant ça, parce que je ne finance plus l'avenir à partir de l'épargne,
je finance l'avenir. Ah, monsieur Tréa a un projet très intéressant, c'est de l'Elon Musk du futur. Et je lui ai financé son projet. Mais je vais mettre la créance en circulation, mais pour la mettre en circulation, j'achète énormément d'obligations. Je ne les achète pas parce qu'elles vont m'apporter quelque chose, je les achète en garantie. Et ce sont ces obligations américaines qui ont le dessus, celles qui servent de garantie à l'intérieur de ce système monétaire international. Et la panne de liquidité dont je parlais il y a un instant, c'est en réalité une panne de circulation de ce collatéral. Les seuls gens qui ont ces obligations, et les meilleurs ce sont les T-bills parce qu'ils sont immédiatement négociables, c'est mieux que le dollar, les gens qui ont des T-bills en ce moment, c'est-à-dire des grands brokers internationaux, etc., ils les gardent parce qu'ils ont peur de l'avenir. Ils les gardent.
Ça peut punir aussi l'endettement français ? Nous pouvons avoir du mal, nous, demain, à nous endetter encore ?
Non.
Dans cette crise de liquidité, non ?
Enfin, comme toujours, dans une crise de... C'est pas tout à fait la même chose. On peut pas avoir de mal dans l'émission de monnaie, enfin, me semble-t-il, pour l'instant. Enfin, avec une récession, je ne sais pas ce qu'il en sera. Mais logiquement, aujourd'hui, il n'y en a pas.
Donald Trump qui a eu des mots très durs à l'égard de la Chine et également, une nouvelle fois, à l'égard de l'Union européenne. Je propose de le réécouter.
L'UE a été très dure toutes ces années. J'ai dit que l'UE a été créée pour... nous faire du mal. Tous ces pays européens, pour la plupart d'entre eux, ont créé un monopole, une force unie contre les États-Unis pour faire pression. Nous a fait beaucoup de mal. Ils n'acceptent pas nos véhicules comme le Japon, nos produits agricoles. Ils n'acceptent quasiment rien. Nous avons un déficit avec l'UE de 350 milliards de dollars. Cela va disparaître rapidement.
Non mais oui, juste un point, c'est que il parle de voiture, ouais. On parle de notre smartphone, mais en fait la voiture, vous avez les essuie-glaces qui sont fabriqués dans l'endroit, vous avez les freins dans un autre pays, vous avez les sièges qui sont fabriqués dans un troisième pays. C'est un véritable casse-tête pour les entreprises parce que aujourd'hui elles ne savent pas exactement où est-ce que tout est fabriqué et comment elles vont-elles faire. Ouais. Ça c'est aussi un problème qui va peser sur la croissance économique.
Christophe, quand on entend les mots encore une fois de Donald Trump, c'est vrai qu'il a une obsession, c'est ce fameux déficit commercial. Avec ses 1 000 milliards de dollars qu'il pense pouvoir récolter avec ses fameux droits de douane. Et son message est clair. Il l'a dit ce soir, il l'a dit la semaine dernière, l'Europe rackette les États-Unis depuis des années et des années. Donc il va falloir quand même se montrer vraiment convaincant pour le faire changer de cap. Ça ne va pas être simple.
Oui, mais je suis d'accord. Il faut d'abord être calme parce qu'il y a de la provocation dans tout ça. D'abord, ses calculs sont faux. On le sait. On parlait tout à l'heure de la TVA qui est incluse dans les fameux droits de douane qu'il calcule. On voit bien qu'il ne prend pas en compte une partie des services numériques et financiers. Donc, son calcul est faux. Donc, il nous accuse sur la base de faits et de chiffres qui ne sont pas vérifiés. C'est pour ça que vous avez raison. Il faut être convaincant. Et être convaincant, ça ne veut pas dire être agressif. Exact. Voilà. Et il faut être convaincant non seulement vis-à-vis des États-Unis. On va négocier. On va vous expliquer qu'il y a du gagnant. Il faut être convaincant aussi vis-à-vis du reste de la planète. En disant, très bien, il veut bouger l'ordre mondial.
Et des Américains eux-mêmes. Et du peuple américain lui-même.
Ce qui est peut-être pas le plus facile. Mais moi, je note que ce soir, l'Union européenne a retiré de sa liste le Bourbon. Le Bourbon qui avait été laissé un peu par erreur, c'était une vieille liste qu'on avait ressortie et qui avait entraîné des taxes violentes contre le champagne et les spiritueux français.
Est exclu,
parce que c'était une vieille liste qui avait été ressortie.
C'était la liste de 2021 qui, en fait, voilà. Il fallait l'utiliser tout de suite pour pas avoir à repartir dans tous les méandres.
Avec Harley Davidson. Voilà.
Parce qu'on parle de quel produit là, précisément qui pourrait être taxé le 15 mai, le produit américain.
Ah ben là, on va aller sur des produits industriels, on va aller sur
parce qu'on n'a pas
les produits possibles.
Non, on n'a pas de liste pour l'instant. Justement, ils sont en train de revoir
ça sera très large.
Cette liste. Mais déjà, ils ont pris la décision de sortir le Bourbon.
Si vous le permettez, on a parlé là de la crise des droits de douane et de la chute de la bourse. J'ai fait allusion à la bourrasque qui se prépare par la crise de liquidité. Et Edwige a évoqué tout à l'heure quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse. C'est que... pour Donald Trump, les droits de douane, c'est le premier acte. Il y a un deuxième acte, toujours dans la même veine. Les Français, les Européens nous volent parce que ils exportent plus chez nous que l'on importe, et donc ils sont des voleurs que l'on va taxer avec les droits de douane. Mais sur tout le passé, ils ont bien dû faire une cagnotte. Et cette cagnotte, elle est où ? Elle est dans les banques centrales. Alors, il faut qu'on fasse... Edwige y faisait allusion tout à l'heure, ce qu'on a appelé les accords de Mar-a-Lago.
Voilà.
C'est-à-dire pour flatter l'honneur de Donald Trump et pour lui donner une chance au projet de prospérer, on a dit Mar-a-Lago. Et l'accord de Mar-a-Lago, c'est d'abord chez ses alliés, les chefs d'État et les banques centrales qui viennent à Mar-a-Lago s'incliner et dire « Oui, notre maître, on a bien compris ce que vous nous dites, le dollar est trop fort, il faut qu'on baisse le dollar et il faut qu'on, pour ça, on se défasse de nos réserves en dollars. » Et le maître dira « C'est très bien, mes chers sujets, j'accepte cela, et en échange, je vais vous donner des obligations du Trésor américain à 100 ans et à taux zéro. » C'est rigoureusement impossible, parce que l'idée que Donald Trump gouverne comme ça, avec un décret, les monnaies mondiales, c'est totalement absurde. Le marché n'a rien à voir avec celui des accords du Plaza qu'il avait précédé en ce sens en 1985. C'est absurde, c'est fou, mais c'est intéressant, parce que s'il le fallait, il a une troisième crise en préparation.
Ouais. Il a d'ailleurs pris à partie, c'est important, parce que c'est la première fois qu'il le dit, violemment pris à partie l'euro ce soir.
On va évoquer, on va évoquer dans un instant la possibilité de négociation avec Donald Trump. Est-ce qu'il peut plier Donald Trump parce qu'il est sous la pression des marchés financiers, il est sous la pression des milliardaires, il est sous la pression de son opinion, il est sous la pression aussi diplomatique des dirigeants.
Mais il est protégé par Dieu.
Alors, mais est-il de plus en plus seul, Donald Trump? On va se poser la question dans un instant. Mais d'abord, il y a beaucoup de questions ce soir, beaucoup d'inquiétudes de la part des Français, notamment des épargnants. Est-ce qu'il y a un risque pour l'épargne des Français à la main de l'un quand on voit la situation catastrophique sur les marchés financiers?
Très difficile de répondre à cette question. Vous avez les risques que vous avez dans toutes les périodes de crise et ça dépend de la nature de votre épargne. Voilà.
Pour tous ceux qui ont placé en bourse là et qui ont peur de tout perdre, il y a des raisons de s'inquiéter.
C'est tout garder.
C'est peu de Français.
Surtout pas vendre.
C'est peu de Français. L'épargne des Français, elle n'est pas en bourse.
Elle est dans les obligations d'État.
Les obligations d'État.
Ne vous laissez pas ébranler par la panique dans les médias quand on voit son portefeuille fondre. La pire des réactions, c'est de vendre. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas
jamais vendu. Ouais,
c'est ce que dit le conseiller au commerce de Donald Trump.
Vendre au son du canon.
Ne jamais vendre au son du canon. C'est quoi les secteurs qui sont les plus touchés là en ce moment?
Là, c'est le luxe, évidemment. Ouais. Regardez l'action LVMH, regardez l'action Kering, enfin Pinot. Le luxe. Là, on a vu aussi Apple, enfin donc des entreprises de la tech, et puis l'industrie automobile. Voilà. Vous dites la pharmacie, mais pour une raison autre, c'est parce que le secrétaire d'État Robert Kennedy est en anti-vax et que donc ça a un impact très fort sur la pharmacie.
Vous dites ne pas vendre inévitablement. La bourse, elle va remonter.
Je sais pas quand elle remontera, mais ouais, peut-être demain, peut-être dans je sais quand. Mais en général, faut savoir attendre. Il faut savoir vendre juste au moment où on sent que le vent va tourner, et après, il faut attendre.
Mais là, c'est trop tard. Ouais.
Et si j'ai des livrets A, si j'ai des livrets de développement durable, est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là?
Non, c'est des obligations d'État.
Aucun. Quid des assurances vie, des plans d'épargne retraite, parce que c'est des questions très concrètes qui nous parviennent ce soir.
Il n'y a pas de risque.
Non. Est-ce qu'il y a des valeurs refus en ce moment? Typiquement, l'or, ça reste.
L'or,
ça reste
toujours
des valeurs refus en ce moment.
Oui, absolument.
Qui est déjà au plus haut,
donc si je résume bien, pas de raison de s'alarmer, de s'inquiéter sur l'épargne des Français.
Faut jamais
pas de panique.
L'affolement fait la crise.
Oui. J'ai une question d'Hakim, un téléspectateur, n'hésitez pas si vous avez des questions, qui nous demande que va-t-on payer plus cher à terme? Alors c'est compliqué parce que ça va dépendre aussi de la riposte européenne.
Voilà, ça dépend de l'issue des négociations de ce bras de fer. Mm-hmm. Donc c'est un peu trop tôt pour répondre.
Tout ce que nous voudrons que les Français payent plus cher, parce qu'on leur a mis dans la liste de représailles.
Mais ça peut être couplé avec une réflexion sur les changements de consommation qu'on veut imposer ou susciter aux Français, suggérer aux Français. Ouais. Par exemple, si on veut qu'ils changent de consommation culturelle, on peut faire monter le prix des plateformes américaines. Ouais. Si on veut qu'ils changent de consommation alimentaire, on peut frapper tel ou tel produit. C'est l'occasion peut-être d'avoir une réflexion vertueuse sur le consommer national, patriotisme économique et conseiller propre, conseiller vert.
Patriotisme, vous parlez pas de boycott? Christophe.
Non, pas de boycott, mais je dirais simplement, on a mis des représailles sur des produits, ils vont donc augmenter dans le rayon de vos supermarchés, achetez plutôt français, ça sera moins cher.
Bien évidemment, le libéral que je suis s'oppose totalement à de telles visées, puisque ça consiste à dire aux citoyens, voilà ce que vous devez acheter, voilà ce qui est halal et voilà ce qui est haram.
Petite manipulation discrète.
Mais j'aime pas qu'on mette le doigt dans les manipulations.
Mais le boycott, alors.
Parce que quand l'État commence, on sait pas où ça s'arrête.
Mais alors, pour le coup, le boycott, est-ce que c'est un levier de pression qui pourrait être intéressant?
Non.
Le boycott, c'est antilibéral au possible.
C'est antilibéral, mais c'est surtout
en l'occurrence,
largement inefficace. Le consommateur finit toujours. Le boycott de consommateur, ça c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Mais
c'est ça qui marche. Ça se développe, notamment par exemple au Canada.
Ça marche rarement.
Quid, Alain Madelin, des répercussions sur l'emploi. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés. C'est ce qu'a dit Patrick Martin, le président du MEDEF. Il dramatise ou c'est une réalité?
Je crois que la menace vient plus de la récession que j'annonçais sous le coup de manque de liquidité, parce que celle-là, on la connaît bien, on sait ce que ça donne, et on sait que ça donne une période de creux, indiscutablement.
Et quels sont les secteurs, là aussi, qui vont être les plus touchés sur l'emploi?
Vous avez un creux économique, regardez ce que vous avez eu touché.
Ça va être l'automobile, notamment. Ça va être encore beaucoup plus touché qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Quid des solutions, Edwige, qui s'offrent aux entreprises françaises qui exportent aux États-Unis pour préserver justement leur activité et donc leur emploi? C'est quoi les solutions qui proposent? Baisser les prix, rogner sur les marges?
Rappelez-vous, c'est Emmanuel Macron qui a fait appel au patriotisme économique en disant à tous les chefs d'entreprise qui ont investi ou qui étaient en passe d'investir aux États-Unis, de mettre sur le mode pause. C'est très compliqué. Il y a une réponse quand même assez mesurée du côté du patronat, parce que c'est pas évident. Mais surtout, c'est pour ça que c'est paradoxal. C'est qu'en fait, Joe Biden, donc le président démocrate avant Donald Trump, lui, il avait réussi à attirer des investissements, notamment français, mais pas que.
C'était la carotte, maintenant c'est le bâton.
Avec le fameux IRA, vous savez, la Inflation Reduction Act, où en fait, on allait investir aux États-Unis et on avait le droit tout de suite à des réductions d'impôts. Et ils avaient réussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises qui sont allées, savaient investir aux États-Unis, construire des usines. Et c'est là où on se retrouve aujourd'hui. Et maintenant, elles se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée.
Il faut dire à nos entreprises, à nos entrepreneurs, n'investissez plus, suspendez vos investissements aux États-Unis.
Mais de toute façon,
tant qu'on est dans ce bras de fer, qu'on est dans la phase de récession.
Mais non. Pour une raison simple.
Pour une raison simple, c'est que
c'est pas le président de la République qui décide ce que doivent faire les entreprises. Pour une raison simple aussi, c'est que moi j'en connais, je participe à des investissements aux États-Unis. Vous les décidez 3 ou 4 ans avant, et ça met du temps. Et je connais des amis qui vont inaugurer leurs usines aux États-Unis dans 6 mois. Ouais. Les gens qui vont faire de nouveaux projets, ils vont réfléchir, ils vont dire oh là là. Ouais. Quelle incertitude aux États-Unis. Est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille? Est-ce que le gain que je vais faire compensera l'augmentation des droits de douane que j'aurai? C'est vrai peut-être pour un certain nombre de produits ou d'entreprises, mais pour très peu en réalité, pour très peu. Donc laissez faire les entreprises, laissez faire le marché, ça réglera ça.
La demande d'Emmanuel Macron était hors sol de ce côté-là. Ouais. On n'agit pas comme ça sur l'économie, surtout quand on cherche des réponses à court terme, alors que ces logiques d'investissement sont à long terme.
C'est vous qui le dites.
Ce que détestent les entreprises, comme les marchés financiers, c'est l'incertitude.
L'incertitude.
Et là, on est en pleine incertitude. Vous imaginez une entreprise qui doit faire un plan pour 2025, à 2 ans, à 3 ans, 4 ans. C'est impossible. Mm-hmm. On ne connaît même pas le prix de l'énergie, on ne connaît pas le prix des droits de douane, on connaît rien. Donc, c'est ça qui est le plus dangereux.
Et pas sûr que le discours de Donald Trump ce soir rassure, où il dit d'un côté pas de pause et en même temps, on est en train de discuter avec un certain nombre de pays et il va y avoir des accords équitables. Est-ce que Donald Trump peut plier sur les droits de douane? On va y revenir dans un instant, sous la pression notamment des milliardaires. Mais d'abord, j'ai encore une question très pratique, avec peut-être une bonne nouvelle pour les consommateurs, puisque le prix du baril de pétrole a atteint, cela dit, niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 4 ans. J'ai 2 questions. Est-ce que c'est l'effet Trump? Et est-ce que réellement ça va se concrétiser par une baisse des prix à la pompe?
C'est l'effet Trump, oui, bien sûr.
C'est les deux, l'effet Trump. Parce que mais c'est pas très positif dans le sens où il y a un peu les craintes d'une récession, d'une moindre activité économique.
Exactement.
Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura moins de besoin de pétrole. Donc c'est toujours un indicateur qui est un peu à double tranchant, parce que le côté positif, et ça c'est déjà traduit, vous l'avez déjà vu si vous avez fait votre plein ce week-end ou même dès vendredi, les prix à la pompe ont déjà baissé.
Et ça va continuer de baisser comme ça?
Il y a des chances.
Je voudrais ajouter un
niveau très bas.
Une notion qui n'a pas du tout été évoquée, c'est celle des pays les plus modestes et notamment de l'accord entre les États-Unis et 34 pays africains qui vont payer très cher. C'est la politique des droits de douane. Surtout. Par exemple, une île comme Madagascar va être complètement affamée par les mesures douanières de Donald Trump, parce qu'elle vit sur beaucoup d'exportations vis-à-vis des États-Unis, notamment dans la vanille et dans d'autres domaines, et elle va être interdite de commerce quasiment, et ça va avoir des répercussions sur ces populations et évidemment sur l'immigration vers l'Europe.
Est-ce qu'Alain Madelin, cette nouvelle donne peut, à contrario, créer des opportunités pour l'Europe? Pascal Lamy, qui est l'ancien directeur général de l'OMC, dit que justement l'Europe pourrait se poser en pôle de stabilité et que ça permettrait de tisser des liens avec des grands pays du Sud pluriel.
Il faut que Pascal Lamy, en tant que ex-patron de l'OMC et qu'éventuellement l'OMC parle davantage. On a besoin d'entendre la voix de l'OMC, car en matière de
Organisation
mondiale du commerce, car en matière de libre-échange, c'est eux qui représentent la justice et la vérité. Donc c'est vraiment, il faut que cette voix-là se fasse entendre. Alors, sur votre question, oui, bien sûr, toute crise a des opportunités, mais on l'évoquait tout à l'heure. D'abord, des opportunités de zones de libre-échange conclues avec d'autres. Et la Chine semble aller dans cette direction-là. Nous sommes un vieux pays qui a du mal à se faire au libre-échange. Puisse-t-il s'ouvrir intellectuellement à la faveur de cette crise aux idées de libre-échange?
C'est une possibilité d'ouvrir sur certains nombre de marchés.
Bien sûr, d'abord le Mercosur.
C'était pas la mode.
La ratification du Mercosur.
Mais tout le monde était contre le Mercosur.
Mais peut-être que ça va être la mode de printemps, ça n'a pas été la mode d'hiver, effectivement.
Donald Trump peut-il céder sur les droits de douane, notamment sous la pression de ses amis milliardaires, et plus particulièrement d'Elon Musk, qui ne partage pas tout à fait sa vision du business? C'est l'œil de Raphaël. Il commence à grincer des dents, Elon Musk, Raphaël.
Oui, déjà, on ne l'a pas beaucoup entendu de la semaine dernière. Il est resté assez silencieux. Et puis, il y a un tweet qu'il a publié aujourd'hui. Alors, je vais dire un tweet, c'est simplement une vidéo. Une vidéo que vous devez bien connaître, Monsieur Madelin, de Milton Friedman, avec le fameux exemple, justement, de Milton Friedman, le célèbre économiste...
Monétariste
ultralibéral, qui montre un crayon à papier et qui explique à quel point ce crayon à papier...
Moi, le crayon.
Exactement, voilà. Pourquoi ce crayon à papier nécessite des matériaux...
Aucun cerveau humain ne saurait retracer tout le chemin qui m'a mené dans tes mains.
Exactement. Et qui montre comment...
On n'a même pas le temps de regarder la vidéo, du coup.
Chaque matériau... Je vais vous montrer un extrait dans quelques secondes. Chaque matériau de ce crayon à papier, en fait, ce que vous disiez, Edwige, sur les voitures, de toute façon, c'est exactement la même chose, était indispensable pour fabriquer un simple crayon à papier, avec une conclusion qui est fondamentalement anti-Trump. Écoutez-la.
C'est pourquoi le libre-échange est si essentiel. Pas uniquement pour optimiser le marché, mais aussi pour favoriser l'harmonie entre les peuples du monde.
Et cette vidéo de Milton Friedman, tweetée par Trump, elle vient de l'aide donc il y a quelques heures. Et le sujet n'est pas du tout anodin, parce que quelques heures plus tôt, par Elon Musk n'est pas anodine, parce que quelques heures plus tôt, Donald Trump répondait à des journalistes dans Air Force One. Il parlait donc des droits de douane et de la Chine, et vous allez voir justement, dans sa réponse, Donald Trump parlait d'un produit bien précis.
Ils doivent payer des droits de douane, sinon ils ont un excédent commercial sur nous. Et ça, ce n'est pas viable. Et on parle de 1 000 milliards de dollars. On ne va pas perdre 1 000 milliards de dollars pour pouvoir s'acheter des crayons chinois.
Justement, Donald Trump qui parlait de crayons chinois, et donc Elon Musk qui réplique avec ses crayons à papier. Alors d'abord, une remarque, le déficit États-Unis versus Chine, c'est pas du tout 1 000 milliards de dollars, contrairement à ce que dit Donald Trump, c'est 300 milliards de dollars en 2024. Effectivement, on peut imaginer que l'exemple du crayon à papier choisi par Elon Musk soit peut-être l'un des premiers vrais tacles d'Elon Musk à Donald Trump.
Et d'autant plus que Musk, comme beaucoup de milliardaires, commence à être sérieusement irrité.
Oui, Musk, déjà qu'il y a de gros intérêts en Chine avec ses usines Tesla, et de façon plus générale, rien que ce week-end, c'était des chiffres de Bloomberg, les 500 personnes les plus riches qui avaient perdu 500 milliards de dollars. Et parmi les voix qui se font entendre, des investisseurs qui étaient jusque-là assez alignés sur Donald Trump, et notamment Bill Ackman, un célèbre investisseur qui multiplie les critiques sur les droits de douane. Ça, c'est un message, un tweet qu'il a publié il y a quelques heures aussi. L'économie mondiale s'effondre à cause d'erreurs de calcul. Et l'erreur de calcul, évidemment, il fait référence à cette fameuse formule assez basique d'importation sur le déficit sur les importations.
Pour calculer les droits de douane réciproques.
Soi-disant imposés par les autres pays.
Qui était stupide.
Oui, ou arbitraire, voilà, c'est selon.
Christophe Barbier nous avait fait le calcul la semaine dernière, qui était...
Il avait additionné des choux et des carottes, en fait, pour arriver à 39%.
Bah, en fait, il faisait le déficit divisé par les importations, c'est et ça donnait le droit de douane, et divisé par deux, parce qu'ils sont sympas.
Oui, vu de la Silicon Valley, c'est extrêmement important, là, ce que vous venez de dire. Parce que Trump, c'est, au fond, la campagne profonde américaine qui s'est alliée avec les étoiles d'Elon Musk.
Qui sont les premiers perdants de sa politique.
Et c'est pas les premiers perdants, je ne sais pas dire ça, mais disons que eux, ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'État. La bureaucratie, avec une raison qui n'est pas forcément une mauvaise raison, hein. C'est qu'ils disent, nous, on est en train de tracer le chemin du futur, et là, il y a des gens qui nous verrouillent, qui verrouillent le futur. Donc, il faut qu'on donne un grand coup de balai dans tout ça. C'est vraiment l'esprit Silicon Valley, hein. Et puis ensuite, l'autre esprit Silicon Valley, c'est de se dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est le futur. Nous, c'est l'avenir de l'humanité. C'est vrai, hein. Vraiment, c'est l'avenir de l'humanité. On gagne de l'argent, bien sûr, mais on a une mission. Une mission qui consiste à aller sur Mars. Une mission qui consiste à modifier...
Le transhumanisme.
Pardon?
Le transhumanisme aussi.
Le transhumanisme, si vous voulez, on peut prendre ce mot qui peut être un humaniste, qui n'est au premier degré, d'ailleurs, le transhumanisme, disent les gens de la Silicon Valley, c'est un humanisme augmenté. C'est-à-dire des machines travailleront pour nous, donc on pourra faire davantage de choses pour se cultiver soi-même. Donc, franchement, c'est un beau message auquel ils croient. Et alors là, maintenant, c'est un message qui est le bien de l'humanité, hein, en soi. Ils y croient vraiment. Mais le bien de l'humanité est là. Qu'est-ce que c'est que ces barrières, ces trucs, cet impérialisme? Ils ne sont plus à l'aise, à mon avis, dans les projets de Trump. Et surtout, comme les 10 prochaines années vont être les plus fabuleuses de l'histoire de l'humanité, avec le progrès scientifique, technologique qui arrive à une vitesse incroyable, absolument incroyable, ils ont peut-être envie de penser à ça que de penser maintenant au Trump-prix.
Est-ce que ces milliardaires ont le pouvoir, Yves Tréhard, de faire infléchir Donald Trump?
Oui, alors non, mais j'ajoute en plus que Donald Trump, ce qu'il fait, c'est qu'il applique des méthodes du 19e siècle à l'économie du 21e siècle.
Exactement, donc c'est très vrai.
C'est absolument absurde pour eux. Et effectivement, à mon avis, il y a trois obstacles. Le premier obstacle, c'est l'opinion américaine et notamment les consommateurs américains. Ça, c'est apparemment les conséquences ont l'air d'être assez rapides.
Avec un certain nombre de manifestations d'ailleurs ce week-end.
On a vu des manifestations ce week-end, bon, qui étaient encore marginales, mais qui pourraient prendre du volume.
Et ça dit quand même quelque chose de ce qui est en train de se passer.
Ça, c'est la première chose. Le deuxième obstacle, c'est évidemment tous ceux qui avaient misé sur lui en se disant, bah tiens, il va nous permettre de faire ce qu'on veut, mais qui finalement l'empêchent de progresser et qui vont probablement abîmer leur chiffre d'affaires.
Sans parler de l'immigration des talents.
Voilà, exactement. Et donc ça va être quelque chose qui va probablement peser contre lui. Et puis il y a une troisième chose, c'est qu'on oublie un peu vite, et c'est une façon de donner la parole à Ulysse, c'est sa politique étrangère. Parce que il avait dit qu'il réussirait en deux jours en Ukraine, et il est en train de s'enliser. Il avait dit qu'il réussirait tout de suite sur le conflit israélo-palestinien. Makash Bono, il n'y arrivera jamais. Donc, il va aussi avoir une image qui va sérieusement s'écorner sur le plan international, et on s'apercevra que le bilan global du Trumpisme tel qu'il était vendu pour sa campagne électorale est un bilan extrêmement négatif.
Ulysse, justement, est-ce que le dossier ukrainien peut peser dans ces négociations? Est-ce que Washington peut vouloir instrumentaliser le dossier ukrainien? Et à contrario, est-ce que nous, Européens, on peut se dire on va pas y aller trop fort? Parce que derrière, on a besoin aussi des États-Unis pour ces fameuses garanties de sécurité.
Je suis obligé d'être en désaccord avec Yves Tréhard, parce qu'en fait, Donald Trump, c'est une stratégie multi-objectif, multidimensionnelle. Il y a en ce moment les tarifs douaniers, oui. Avant, il y a eu l'Ukraine. Et aujourd'hui, vous savez, la surprise du chef, c'est l'Iran. Trump a annoncé tout à l'heure qu'il avait l'intention d'entamer un dialogue direct avec l'Iran. Ça ne s'est pas produit depuis des années. Et pourquoi c'est important? Parce que d'ici quelques mois, l'accord sur le nucléaire iranien va arriver à échéance au mois de septembre. S'il n'y a pas de nouvelles discussions, alors c'est la voie ouverte à l'invasion, à la guerre, au bombardement par Israël des centrales, enfin des centres de production de la bombe atomique iranienne. Le fait qu'aujourd'hui Donald Trump surprenne le monde entier en disant je vais commencer un dialogue direct avec l'Iran, c'est une surprise absolument majeure. C'est ce que réclamaient d'ailleurs les Européens depuis longtemps, la France en particulier, en disant pour éviter la guerre avec l'Iran, il faut un dialogue direct.
Donc c'est-à-dire qu'il dissocie la géopolitique des droits de douane et de sa guerre commerciale.
Ça veut dire qu'en ce moment, Trump, il bombarde partout, hein, au bazooka, alors sur les tarifs douaniers, sur l'Ukraine, sur sa relation avec Poutine. Et il est en train d'essayer de créer un nuage de fumée partout et finalement d'essayer de dire à tout le monde « Vous n'avez rien compris, vous pensez aux droits de douane, moi je pense à l'Iran, vous pensez à l'Iran, moi je pense à l'Ukraine, je veux rétablir et normaliser mes relations avec
Poutine. » Mais Ulysse, il peut échouer partout aussi. Hein.
Non mais attendez, ça fait même pas... Il est au pouvoir depuis le 20 janvier. Je ne veux pas me faire l'avocat de Donald Trump, mais il est au pouvoir depuis 20 janvier. Vous avez vu comment le monde a changé en l'espace de quelques semaines? Alors c'est vrai... avec un risque de chaos, de destruction de l'économie mondiale, de récession à la fin de l'année, avec aussi le risque d'un échec au Moyen-Orient, d'un échec avec Poutine et d'un échec avec l'Iran.
Il a changé dans le paradigme, mais plus que dans les résultats.
Mais en même temps, il a tout remis à zéro, si j'ose dire. Il a rebattu les cartes de l'ordre mondial. Alors, oui, on peut dire que c'est le désordre mondial. C'est le désordre mondial. Mais lui espère que ça va porter ses fruits. Alors, encore une fois.
Est-ce qu'il n'est pas isolé, Ulysse? Parce que.
Oui, mais c'est le plus grand. C'est le chef d'État le plus puissant du monde.
Oui, non, mais même au sein.
Moi, la seule chose sur laquelle Trump peut arriver à un blocage, c'est la Chine. Parce que si la Chine déclenche l'arme nucléaire en disant on va déclencher 104% de droits de douane pour faire face aux 54% de Trump, alors là, il tombe sur un adversaire redoutable. C'est le plus gros adversaire de Trump.
Mais est-ce que l'adversaire peut être intérieur, peut venir des États-Unis? C'est ce que disait Yves Tréhard il y a un instant. Il disait il y a quand même la question de l'opinion américaine qui pourrait se retourner parce que à un moment donné, elle paiera aussi la facture de ses droits de douane. Oui. Il y a la question des milliardaires qu'on a évoqué il y a un instant avec Raphaël. Il y a les bourses, les marchés financiers qui sont en train de paniquer. Et puis il y a aussi la pression diplomatique. On sait qu'il y a une cinquantaine de pays qui ont visiblement contacté la Maison Blanche. Il a échangé avec un certain nombre de dirigeants, notamment avec le Premier ministre japonais. Est-ce qu'à un moment, on a l'impression que l'étau se resserre? Est-ce qu'il ne va pas se retrouver de plus en plus isolé?
Oui, mais sa force, c'est justement d'ouvrir le jeu en frappant partout à la fois. Les milliardaires qui ont perdu, par exemple Elon Musk, on parle d'une perte
milliards,
de 130 milliards de dollars. Vous imaginez, c'est absolument considérable. Mark Zuckerberg, 23 milliards, etc., etc. Donc tous ces gens qui sont finalement,
c'est pas le problème.
Dépendant de Trump, parce qu'ils ont décidé de finalement de faire avec lui, ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ils espèrent en regagner autant très prochainement, comme les traders de Wall Street. Quelqu'un me disait, ne vous inquiétez pas, ils vont racheter à la baisse et quand ça remontera, eh bien, ils referont fortune. Et c'est un peu la même chose pour tous les gros conflits. Avec Poutine, en ce moment, ça ne marche pas. Trump est furieux parce que Poutine bombarde l'Ukraine et il dit, il faut que ça s'arrête. Mais ce qu'il veut, c'est normaliser les relations avec la Russie. Et il est prêt à tout pour y parvenir, éventuellement d'ailleurs à sacrifier l'Ukraine. Mais il n'a pas fini, il vient de commencer la négociation. Une négociation de paix avec la Russie, ça prend des mois pour ne pas dire plus. Donc si vous voulez, et même chose pour le Moyen-Orient. Actuellement, c'est un échec, la guerre reprend à Gaza, il y a des crimes de guerre commis par Israël, l'affaire des secouristes qui ont été tués dans un convoi ambulancier. Donc c'est un désastre absolu. Et néanmoins, il poursuit son chemin et il va trouver certainement un accord avec l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, le monde est en pleine recomposition. Et c'est vrai que c'est vertigineux, que c'est affolant, effrayant et qu'on a raison d'avoir peur. Mais on ne peut pas dénier à Trump d'avoir cette stratégie multiple qui lui permet d'avancer à une vitesse grand V.
Mais est-ce que c'est une stratégie raisonnée? Est-ce que c'est une stratégie qui est construite? Ou c'est finalement le raisonnement d'un cow-boy qui casse la maison et qui casse la baraque et qui se dit finalement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, et c'est moi qui impose ma force. C'est finalement un réflexe jacksonien, comme on dit, c'est-à-dire la loi de la force.
Oui, c'est vrai qu'il est d'allure de cow-boy, mais je pense que c'est raisonné, et qu'avec ses conseillers qui sont loin d'être des imbéciles, qui sont au contraire très intelligents, le conseiller...
Quand il annonce des surtaxes américaines sur les produits chinois...
Le ministre du Trésor, ils sont convaincus de la justesse de leur politique. Je ne la défends pas. Ouais. Je dis simplement que, dans leur esprit, c'est quelque chose qui a été préparé.
Non, mais typiquement, sur la Chine, on est sur du bluff. Ou réellement, il y a une possibilité pour qu'on aille à 104% de taxes sur les produits.
Non, là, je pense que c'est du bluff. Et je pense que c'est le début de la négociation avec Pékin.
Oui.
Ce que je retire de ce que vient de dire Ulysse Gosset, c'est que, derrière tout cela, il y a une volonté de puissance redoutable. Et une sorte de basculement dans un impérialisme adémocratique. Oui. Je dis adémocratique, pourquoi ? Lorsque on méprise les contre-pouvoirs, et surtout lorsque le président Trump dit « il n'y a aucune loi qui ne saurait arrêter le sauveur d'un peuple », et comme le sauveur d'un peuple, c'est lui, il se met au-dessus des lois, c'est-à-dire le contraire de nos bonnes vieilles démocraties libérales. Oui. Donc il y a une rupture. Il y a une deuxième rupture par rapport avec l'ordre international, puisqu'il considère l'ordre international comme étant un immense empire américain traitant avec d'autres empires, l'empire chinois, l'empire russe, éventuellement les velléités de l'empire iranien, etc. Mais nous passons par pertes et profits et nous mettons dans les gens destinés à se soumettre à l'empire américain. C'est ça la vision pour moi. Oui. Ce qui est, au fond, le moteur profond de la force, parce que c'est le réveil de la force, pire même que le mot force, parce que la force, ça peut être la puissance. En l'occurrence, c'est la violence.
C'est le retour de la puissance américaine, c'est le retour des empires,
la loi du
c'est le règne des prédateurs.
C'est pas le retour de la puissance de Reagan, c'est pas le retour, c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. Dans là, c'est indémocratique et c'est la violence, c'est tout à fait différent.
Oui, c'est
donc
c'est,
le phare c'est, de la liberté, c'est éteint.
C'est le cow-boy qui se veut empereur pour faire face à Xi Jinping, l'empereur de Chine, à Poutine, l'empereur de la Russie, qu'il veut voir renaître. Et malheureusement, l'Europe essaye...
C'est pas très rassurant pour nous, tout ça.
Mais non, mais c'est pas rassurant. Ouais. Quand je décris ce qui s'est en train de se passer, c'est pas que je cautionne. Je dis, voilà le monde dans lequel on vit. Oui, enfin, et c'est le monde des empires. Et Trump est sans doute celui qui a rebattu les cartes. C'est le plus disruptif de tous.
Pour conclure, Christophe.
Reagan avait autour de lui, avait une puissance de vue à la fois sur les réformes économique et sur la géopolitique avec la guerre des étoiles qui a profondément fait muter la fin du XXe siècle. On n'a pas ça avec Trump.
Mais souvenez-vous de Reagan quand il était à la Maison Blanche. C'était l'acteur Hollywood qui n'avait aucune connaissance.
Mais regardons son entourage.
Regardons son entourage. Changer la fin
des choses. Regardons son entourage. Et à vous toutes, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Alain Madelin d'avoir été notre invité. Merci Ulysse, merci Edwige.